Nous allons prier, mes amis. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous rattache à lui. La vie nous entraîne comme un courant d'eau très fort. On perd la notion du but de la vie. On confond le début, la fin, la droite, la gauche. Il faut que le Christ nous prenne en main comme il a pris l'apôtre Pierre qui tombait dans l'eau et il l'a relevé. Alors on va lui demander qu'il nous prenne par la main. Il n'est pas brutal, il n'est pas cassant, coupant. C'est quelqu'un de doux et humble. Avec la douceur, on peut soulever le monde. Avec l'humilité, on peut transformer les autres. Jésus le dit lui-même, mais je suis doux et humble de cœur. Ce n'est pas l'apôtre qui dit ça, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Je suis doux et humble de cœur. On va écouter ces paroles. Vous savez qu'au temps de Jésus, des gens sont partis avec lui sur les chemins de campagne, les collines de Galilée. Et puis, une fois, même deux fois, ils ont marché et puis ils n'ont pas mangé. Ils ont sauté un repas, deux repas, trois repas, quatre repas. C'était passionnant quand même. On dit « Jésus, c'est fatigant, c'est plus l'actualité. » Il était passionnant. Il reste passionnant. Mais ils ont resté trois jours sans manger. Et le Seigneur leur a donné à manger d'une manière miraculeuse. Je crois que les paroles du Christ sont captivantes. On va en regarder rapidement quelques-unes, mais d'abord, on va se lever à notre place, tout simplement. Parce que pour écouter, il faut tendre l'oreille. Vous avez remarqué comme les gens qui ont du mal à entendre tendent l'oreille. 2-3 mm de plus permet d'entendre mieux. On va tendre l'oreille pour écouter la voix du Christ qui est dans l'Évangile. Tes paroles délivrent de l'obscurité. Tes paroles rassurent et consolent. Avec tes paroles, tu as créé l'univers. Avec tes paroles, tu vas nous recréer. Permets que nous les entendions avec notre cœur et que nous sachions qu'elles sont destinées à nous. Au sein de nos épreuves, où nous sommes incapables de faire quoi que ce soit, nous ne voulons pas t'accuser, mais nous voulons t'appeler. Seigneur, parle, nous sommes à ton écoute, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir, chers amis, et écouter des paroles de Jésus. Je les respecte beaucoup, je respecte toute la Bible. Et ces paroles de Jésus, je voudrais vraiment que vous les relisiez chez vous, que vous sachiez que c'est un message confidentiel pour vous. Je ne vais pas vous demander de lire tout avec moi, je vais vous en lire. Et puis, pour certaines, on les lira ensemble. Ne vous amassez pas, dit Jésus, des trésors sur la terre. Il commence bien, il commence avec le trésor. Où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs dérobent, percent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne, la rouille, c'était des maladies, des richesses, ne peuvent atteindre, où le voleur ne peut pas dérober. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Parole de Jésus. Que veux-tu dire, Seigneur ? J'ai l'impression que le Seigneur, il veut nous préserver des faux amis. Les amis qui nous font bien des choses gentilles devant nous, mais derrière nous, c'est le coup de poignard. Et je pense qu'il y a sur la terre des richesses, enfin ce qui nous semble riche, et ce sont des illusions. Mais Jésus ne dit pas qu'il faut vivre sans heures et sans argent. Il nous dit, ne vous amassez pas. Comme quelqu'un qui, voyant la neige tomber, voudrait accumuler chez lui de la neige. Il dit, c'est tellement beau, je veux en garder parce que cet été, j'aimerais bien jouer avec mes enfants à la neige. » Alors il remplit sa cuisine de neige, mais le lendemain, il n'y a plus de neige. Hein, vous savez ce que c'est. Il y a comme ça des illusions qui sont très fragiles, qui ne vont pas durer très longtemps, et nous y donnons beaucoup de temps, beaucoup d'attention, d'énergie. Mais ces trésors illusoires, ils ont une emprise sur nous. Ils finissent même par éteindre la lumière de la vie. Ils ramollissent notre pensée. Ils appesantissent notre vie. On n'a pas le temps, il faut gagner plus. On n'a pas le temps, il faut davantage. Je travaillais dans un service de gériatrie un certain temps, pas très longtemps. Et chambre de 20 lits, deux grandes chambres de 20 lits, des chambres de 15 lits, 20 lits, c'était un hôpital avec des grandes salles à l'époque, où les gens étaient couchés les uns près des autres avec 40 cm entre chaque lit. Il y avait la guerre. C'est à moi, non, c'est à moi, non, c'est à moi. Ne vous amassez pas. Jusqu'à la fin, on tirait la couverture, on se disputait pour un petit morceau de table de nuit, pour un sucre que l'autre avait sûrement dû prendre. Ne vous amassez pas, ne vous inquiétez pas. Jésus dit, ne vous inquiétez pas de comment vous serez vêtus, de quoi vous mangerez. Regardez les oiseaux du ciel qui n'ont pas de moissonneuse-batteuse, qui ne sèment pas, qui ne moissonnent pas. Dieu les nourrit. On dirait que ça paraît facile comme raisonnement. Regardez les fleurs des champs. Bien, moi, je vous dis, dit Jésus, que le roi Salomon, qui était intelligent, riche, eh bien, il n'a jamais été habillé aussi bien que ces fleurs des champs. Ça paraît un raisonnement un peu simpliste. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on soit prévoyant. Mettez de l'essence dans votre voiture, ne partez pas comme ça. Soyez prévoyant. Ça veut dire que dans les jours difficiles, gardez toujours une porte ouverte sur Dieu. Dans les jours difficiles, gardez la porte ouverte. La Chine a connu des années noires au temps de Mao Tse-tung. Des années de persécution, des années avec des millions de morts, notamment les chrétiens. Et dans ces années noires, eh bien, l'Église chinoise a gardé une porte ouverte sur Dieu. On recopiait le soir la Bible à la main, avec des crayons à papier, on passait aux voisins. On cachait des Bibles. Ils ont gardé une porte ouverte sur Dieu pour avoir le souffle. Le souffle d'espérance, le souffle pour vivre, pour les enfants, pour la famille. Jésus, quand il dit « ne vous inquiétez de rien, regardez les oiseaux, regardez les lys des champs », j'ai l'impression qu'il veut nous dire « si vous vous attachez aux choses passagères, comme la neige, qui est là, qui ne sera pas là, si vous vous attachez à ces choses-là, jusqu'à en perdre la raison, vous allez vivre en surface. Vous n'allez pas vivre dans l'essentiel. Vous allez vivre à la surface des choses. J'entends une douce musique. Donc Jésus voit le problème d'en haut. Il a le droit. On ne va pas lui faire la guerre parce qu'il nous parle avec une élévation. Il dit... Vu de ma place, l'essentiel, la seule chose nécessaire, c'est la relation avec Dieu. C'est d'entrer un jour dans la maison du Père. C'est de pouvoir, quand nous aurons fini nos quelques jours de combat et de chagrin et de larmes sur la terre, entrer dans le ciel. Alors ne vous laissez pas accaparer par tout ce qui pèse. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a déjà quelques temps, hein. Il y a un bateau qui devait partir en mer, qui devait transporter des passagers. Et le bateau était là, c'était un bateau à voile à l'époque, il n'était pas encore parti. Et puis il y a quelqu'un qui s'est mis à ramasser des coquillages sur la plage. Il les trouvait beaux, il s'éloignait de plus en plus du bateau. Il en trouvait toujours, il était passionné. Puis il a fini par être fatigué. Et puis il a oublié que le bateau devait partir. Et puis tout à coup, il a relevé la tête, le bateau était au large. Parce qu'il était accaparé par ces coquillages qui étaient sûrement très très beaux. Il a oublié le bateau qui partait. Ne vous attachez pas aux choses secondaires, aux choses provisoires. Laissez-vous aller vers l'essentiel. 1000 soucis peuvent enlever notre énergie que Dieu nous a donnée pour l'essentiel. Avez-vous remarqué que nous avons en nous le fonctionnement de nos organes magnifiques et que nous n'y pensons jamais. Dieu n'a pas dit « Surveillez la sécrétion gastrique de votre estomac, surveillez votre bile, surveillez vos intestins, surveillez le fonctionnement de vos poumons, surveillez votre sang, pensez à tout !» Je crois que si Dieu me disait ça, j'oublierais 1000 choses. Pensez à tout. Dieu nous a créés de telle façon que ça fonctionne sans que l'on y pense. Mais c'est vrai que quand ça va mal, on y pense. Mais quand ça va bien, on n'y pense pas parce que tout fonctionne, je ne dis pas tout seul, mais sans nous. Alors pourquoi Dieu a fait ça? Pour nous permettre de penser au plus important. Parce que s'il fallait surveiller toute sa tension chaque seconde, etc., on oublierait l'amitié, la simplicité, Dieu, nos enfants, nos familles, notre femme. Jésus dit, en fait, ne vous laissez pas dévier du chemin. Quand j'avais ma bicyclette, un geste et je déviais du chemin. L'avion, lui, il ne dévie pas beaucoup. Quand il est bien en ligne, il y va. Ne vous laissez pas dévier du chemin. Continuez vers Dieu. Ne mettez pas les choses secondaires comme des dieux. Vous savez qu'en 1941, il y a eu en Pologne des graves événements. La guerre et les Juifs. Et à Varsovie, la capitale de la Pologne, ils avaient mis au milieu de la ville un ghetto. C'est terrible, un ghetto, avec des murs de 3 mètres. Et dans ce ghetto, ils ont mis à peu près 500 000 personnes juives. 500 000. Ils étaient à 6 par pièce dans les maisons. 6 par pièce. Vous imaginez les commodités, comment se laver, comment aller aux toilettes. Comment respirer, comment se chauffer, comment manger. Eh bien, dans ce ghetto étouffant, invivable, que faisaient les hommes, les femmes de ce temps-là? Est-ce qu'ils disaient, bon, ben finalement, il n'y a plus rien à faire? Ils faisaient du théâtre, ils allaient au culte, ils priaient, ils lisaient la Bible, ils aimaient leurs enfants. Ils essayaient de résister à la mort qui les gagnait. Ce qui veut dire qu'ils gardaient une certaine vie. Je dis certaine parce que ce n'était quand même pas la vie facile. Ils ne lâchaient pas le sens de la vie qui est d'aimer, de croire, d'espérer Dieu. Pour nous, mes amis, en écoutant les paroles de Jésus, la vie est difficile aujourd'hui, mais je vous en prie, continuez d'aimer vos enfants. On ne pourra pas dire, la vie est tellement difficile que je ne crois plus dans mes enfants. Continuez d'aimer vos enfants, continuez d'aimer votre famille, continuez de croire en Dieu, continuez de prier Dieu, de respecter. Je vais vous lire avec vous un texte, mais d'abord je vais vous citer ce texte que tout le monde connaît, qui est devenu un proverbe. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Parole de Jésus. Alors, vous me direz, les moqueurs. Y a-t-il des moqueurs parmi nous? Bon, ça va. Les moqueurs vont dire, ah, facile à dire, à chaque jour suffit sa peine, comme ça. Oui, mais ça veut dire, venant de Jésus qui est quand même très sérieux, ça veut dire que Dieu nous donne la force de porter la peine d'aujourd'hui et de porter les soucis et les fardeaux de ce jour. Il ne nous donne pas la force de porter les peines d'un mois ou d'une année ou de 10 ans d'avance. Chaque jour, il nous aide. Avez-vous remarqué que Dieu ne nous demande pas de respirer l'air de tout un mois d'avance? Il dit, vous allez respirer un petit peu chaque instant. Il aurait pu nous dire, remplissez vos poumons pour 3 mois. À chaque jour, à petits pas, suffit sa peine. Mais c'est vrai que j'ai rencontré des gens qui avaient sur les épaules des peines de plusieurs années. Peut-être parmi nous, y a-t-il des gens endeuillés? Quand on a perdu un mari qu'on aime, une femme qu'on aime, un enfant qu'on aime, on porte une peine qui ne dure pas seulement un jour, mais qui dure des années, qui durera toujours. J'ai connu des gens qui, 30 ans après le départ d'un enfant, sont toujours dans le deuil, dans le chagrin. Mais pour les choses de la vie, Dieu nous dit, il y a des choses qui nous chargent, mais tellement de choses sont à éviter. Et Dieu nous dit, à chaque jour, je vous donnerai la force de porter le fardeau de la journée. Alors, continuez. Gardez votre esprit ouvert sur Jésus. Ne laissez pas votre esprit se boucher. Au temps des hommes de la Bible, il n'y avait pas de l'eau au robinet chez soi. Ce n'était pas comme ça à l'époque. On creusait un puits. Ce n'était pas simple de creuser un puits de 20 mètres, 30 mètres. Ce n'était pas donné à tout le monde de creuser un puits. Tenez, madame, vous voulez creuser un puits? Et puis, Isaac avait creusé des puits. C'était le fils d'Abraham. Puis, il y avait des gens à côté qui avaient rempli le puits avec de la terre. Ce n'est pas gentil, hein. Il y a toujours des choses comme ça qui arrivent. On fait quelque chose et puis après, on nous encombre la vie. Alors, on avait bouché les puits de Isaac. Il a fallu qu'il les redébouche, comme si il voulait nous dire, ne vous laissez pas enfermer, gardez un esprit ouvert sur le Christ qui a été livré pour vous entre les mains des pécheurs. Gardez un esprit ouvert, même quand ça va mal, sur la beauté de la résurrection que vous vivrez. Parole de Jésus. Encore une. Jésus un jour disait, venez à moi, vous tous, vous connaissez la parole? Fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette parole, je la connais par cœur, j'ai prêché souvent dessus. Venez à moi, vous tous, fatigués, chargés. Là, Jésus parle à ceux qui ne l'écoutent plus. Parce que quand on est fatigué, chargé, on a envie de s'en aller. On n'écoute pas. Il parle à des gens sur lesquels pèsent les douleurs de la vie, les chagrins, l'usure, les soucis, les deuils. Je pense à la veuve de Naïn qui va enterrer son fils là et qui rencontre Jésus sur le chemin du cimetière. La veuve de Naïn qui pleure, avec toute une foule autour d'elle. Cette veuve de Naïn, Jésus ne va pas lui faire un discours de 3 heures. Elle ne sait pas écouter, elle ne peut plus écouter. Elle n'a pas envie d'écouter. Jésus simplement lui dira, ne pleure pas. C'est tout. Et il va ressusciter son fils pour lui montrer que c'est le maître de la vie. Ça, c'est une femme qui plie dans la douleur et le chagrin. Alors, des gens me disent parfois, oh, ben c'est la vie. Les chagrins, les deuils, les malheurs, c'est la vie. Moi, je dis, non, c'est pas la vie, c'est le contraire de la vie. Nous n'avons pas été créés pour pleurer, gémir, être cassés par des événements, par les gens. Nous avons été créés pour être heureux. Mais qui est heureux sur la terre ? 98% des gens sont des gens fatigués, chargés, éprouvés. Et Jésus dit, venez à moi. Il a un message pour ces gens-là. Il est prêt à les accueillir tous, il est prêt à les recevoir tous. Venez à moi. Dieu a un message pour cette majorité de gens, de l'humanité, que nous ne voyons pas. On dirait, ouf, c'est pas mon cas. Ouf, je suis jeune, je suis en bonne santé, j'ai de l'argent, je fais des études, je travaille, je vais me marier. Mon pauvre ami, un jour ou l'autre, nous courbons aussi sous la maladie, sous des contrariétés. Nous nous courbons devant la mort qui va nous prendre et nous ne pouvons pas nous redresser. Nous nous courbons aussi tout simplement sous le poids de la culpabilité. Parce qu'on peut faire des choses contre sa femme, son mari, ses enfants, les gens. On fait des choses graves, à moins d'avoir un cœur dur, mais qui nous trouble. Il y a une culpabilité qui... Et ça nous charge, ça nous épuise. Et Jésus dit à tous ces gens qui sont brisés, cassés, « Venez à moi !» Mais surtout quand nous arriverons à la fin, des gens sont morts dans mes bras, pas mal, des gens âgés, des enfants, des jeunes. Mais quand arrive la fin, quand il n'y a plus rien à se retenir, là, le Christ dit « Venez à moi !» Il nous apparaîtra quand nous partirons dans la mort. Je dis même plus la mort, parce que pour moi, la mort, c'est plus la mort. Il nous apparaîtra et il nous dira, comme il a dit à l'apôtre Pierre, qui coulait dans l'eau, et les apôtres dans la barque qui avaient peur, « C'est moi, rassurez-vous, n'ayez pas peur !» Je pense que c'est peut-être ce sont ces paroles-là qu'il nous dira, quand nous ne pourrons plus rien retenir, nos... Vous savez, quand on meurt, les mains s'ouvrent. Et quand on est, les mains se cramponnent à la vie. Et quand on part, les mains s'ouvrent. Et quand nos mains s'ouvriront et qu'on n'aura plus rien pour nous tenir, Jésus nous dira, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus disait, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Seigneur, mais... Il y a toujours des râleurs sur la terre. Il y a toujours des râleurs, partout. Même quand on leur donnerait les plus beaux cadeaux, ils râlent. Eh bien, des gens disent, mais ce n'est pas possible. Abraham est mort. C'est ce qu'on a dit au temps de Jésus. Abraham est mort. Il ne verra pas la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis encore trop jeune pour vous en parler. Et je serai toujours trop jeune pour vous en parler parce que je ne sais pas tellement ce que ça veut dire. Mais ça veut dire tout simplement qu'il ne verra pas la mort. Il partira et ses yeux s'ouvriront sur la beauté de Jésus. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Parole de Jésus, car pour lui, tous sont vivants. Amen. On va lire ensemble. Matthieu, chapitre 13, Évangile de Matthieu, chapitre 13. Ces paroles traversent les siècles, recoupent. On a l'impression que malgré les siècles qui sont passés, tout est resté frais, tout est resté accessible. Si je vous lisais un livre de médecine qui date du temps de Jésus, vous me diriez, frère, je vous en supplie, arrêtez de parler de ça, c'est incompréhensible. La médecine a changé à 300%. Mais quand on lit la Bible, on dit, ça c'est moi. C'est moi qui suis capable de prendre le train, le TGV, l'avion, je suis capable de me servir de l'ordinateur. Malgré tout, ces paroles-là me parlent, me touchent. Écoutez bien. Matthieu 13, vous avez trouvé ? Verset 24. Il leur propose une autre parabole, et je vais conclure par là. Il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, c'est pas gentil, sema de l'ivraie, c'est-à-dire une mauvaise herbe. L'ivraie, j'en ai déjà vu. Ça ressemble au blé, et puis c'est pas du blé. Puis c'est dangereux, ça peut provoquer la mort. Enfin, c'est une plante mortelle, quoi. Il sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie, la mauvaise herbe, parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ?» On râle. D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Pas facile. Alors qu'on supporte l'ivraie jusqu'à la fin. « Laissez croître ensemble, dit Jésus, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, jetez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. » Mes amis, j'aurais dû commencer par là. Ne vous inquiétez pas, à chaque jour suffit sa peine, venez à moi, vous tous fatigués, chargés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout va de travers? On a une bonne éducation à nos enfants qui commencent à boiter, on essaie de mettre de l'ordre dans la maison qui s'effrite, qui se casse, qui se plie. On essaie de donner une ligne de conduite à sa vie et puis on marche de travers, mais qu'est-ce qui se passe? On a 2000 ans d'histoire en France, on a appris beaucoup de leçons, on a appris des tristes, des moins tristes, puis là encore aujourd'hui, on est devant l'inconnu, on ne sait pas qui demain gouvernera la France, est-ce que nous mangerons, est-ce que nous serons heureux? Jésus dit, un semeur a semé du bon blé, du bien. Il a agi, il a travaillé. Et puis pendant que les gens dormaient, qui sont ces gens? Pendant que les gens dormaient, eh bien quelqu'un est venu pour semer de l'anti-blé. Une herbe qui provoque ivresse, c'est le même mot hein, dans la Bible. Et même zizanie, ivraie en grec. Je vais vous apprendre un mot grec. La zizanie, avec deux Z. L'ivraie se dit zizanie. Quelqu'un a semé la zizanie, a semé de l'ivresse pendant que les gens dormaient. Vous voyez un peu? Quelqu'un a semé de la mauvaise herbe pour anéantir le champ de ce brave fermier, pour anéantir le projet de Dieu dans nos vies. Pourquoi il a fait ça, cet homme? Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas approfondir le mystère du mal. J'ai vu des gens tellement bien, chrétiens, non-chrétiens, partout. Puis j'ai vu des gens épouvantables avec un esprit diabolique. Je ne veux pas approfondir la profondeur du mal. Mais un ennemi a dit, je vais lui casser son champ, je vais lui casser sa moisson, je vais lui casser le moral, je vais lui casser la vie, je vais lui casser sa santé. Puis il a semé de la zizanie. J'appelle ça, c'est une nouvelle politique, hein, c'est nouveau dans le monde, mais c'est vrai, c'est pas moi qui le dis, c'est d'autres aussi. Le laisser aller. Laisser aller, tout s'arrangera. Nos enfants vont complètement de travers. Ça s'arrangera. La terre tourne à l'envers. Ça s'arrangera. On appelle ça la politique du « ça s'arrangera ». Eh bien non, ça ne s'arrange pas. L'ivraie, la zizanie, l'ivresse pousse de plus en plus. Même l'ivresse réelle avec de l'alcool, ça pousse. Alors vous me direz, dites-nous, pasteur, où est le bon grain ou le mauvais grain? Elle est où l'ivraie ici? L'ivraie, elle est en moi, en vous. Et le bon grain, il est en moi et en vous. Il est en chacun de nous. Je ne vais pas vous dire les bons à ma droite, les mauvais à ma gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait un président américain qui disait, là-bas c'est le mal, ici c'est le bien. Non, c'est pas sérieux de dire ça. Le bien et le mal sont en chacun de nous, mes amis. L'ivraie et le bon blé sont en chacun de nous. Il y a tout un mélange. Mais comment on va s'en sortir? Jésus dit, ne touche à rien, parce qu'en voulant arracher le bien, vous allez arracher le mal, plutôt en voulant arracher le mal, voyez-vous, je me trompe déjà, moi. On se trompe. Laissez. Le Christ est venu pour prendre sur lui, pour ôter de nos cœurs l'ivraie. Et il l'a porté sur la croix. Parce que c'est quoi la croix? C'est pas une déco d'église. Ce n'est pas une déco de cimetière. La croix, c'est un jugement qui est tombé sur le Christ. On a beau dire, allez, c'est comme ça. Un jugement est tombé sur le Christ. Et puis, il a porté là nos livrets, le mal, la pesanteur du mal, et il l'a jeté dans le cœur de Dieu. Il est mort pour anéantir la puissance du mal et de la mort dans nos vies. Et il a jeté cette puissance de mal dans le cœur de Dieu, pour que Dieu arrête tout ça. La croix, c'est une clé qui ferme, c'est une clé qui ouvre. La croix, c'est une porte qui se ferme, qui s'ouvre. Tu as dit non au mal qui vous détruit, oui à la vie. La croix, c'est le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, le plus grand événement. Parce que de quoi on parle dans les journaux, de quoi on parle à la télé, à la radio, partout? Du mal, des assassinats, des tirs du terrorisme, des chagrins, des peines, des enfants qui pleurent. On parle du mal. Jésus a dit, je viens afin que mes enfants aient la vie, et la vie en abondance. Pas de la rigolade. Jésus-Christ a pris sur la croix l'ivraie qui nous envahissait. Je voudrais que nous puissions bien écouter ces paroles-là. Ces paroles sont vérité. Ces paroles tiennent tout l'équilibre du monde. Vous savez, la vie, ça ne tient pas à des grandes choses. Pour s'aimer dans un couple, il ne faut pas apprendre avec 36 volumes de livres comment on s'aime, comment on se pardonne, comment... C'est la simplicité, on se regarde, on s'aime, on se comprend. Et sur la terre, c'est un échange simple. Si quelqu'un croit en moi, il ne périra pas, a dit Jésus. C'est simple. On va, en instant, incliner nos têtes, si vous voulez bien. On a écouté quelques paroles de Jésus qui nous donnent un petit peu de continuer la marche, de mieux comprendre, de mieux voir, de mieux respirer, ne pas accuser l'autre, mais peut-être se regarder soi-même. Ça nous donne l'occasion de nous décharger, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Parole de la Bible, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Dites, Seigneur, je me décharge de mon souci, du lendemain inconnu, de mes examens, de ma maladie, on se décharge. Parler, c'est se décharger. Les psychologues le savent, mais Dieu aussi. Quand on parle à Dieu, il y a quelque chose qui part de nous et qui va vers Dieu. C'est surprenant, hein? Et quand Dieu nous parle, si vous écoutez, bien sûr, quelque chose de Dieu part et vous touche. Je prie. Seigneur, nous avons médité, nous avons lu tes paroles cet après-midi, et tes paroles recoupent notre actualité, notre vie quotidienne. Tes paroles, c'est notre vie, et c'est ta vie aussi. Tes paroles, c'est toi et c'est nous. C'est la rencontre, C'est nous tomber sous les fardeaux et les pièges de la vie, et c'est toi qui nous relèves. C'est nous qui parfois laissons le mal entrer en nous, et toi qui nous libères du mal. Seigneur, nous voulons te donner une plus grande écoute, mais surtout une plus grande confiance, parce que si nous t'écoutons, nous te ferons confiance. Nous voulons te donner la foi, notre foi. Notre foi qui permet de te recevoir. Car si quelqu'un croit, il sera habité. Il sera habité par le Christ. Seigneur, garde-nous attachés à toi, je dirais sans distraction, c'est-à-dire sans nous laisser accaparer par les petites choses de la vie. Nous voulons aller vers l'essentiel, comme Marie qui écoutait le Christ parler. Et le Christ a dit à sa sœur, à moi, à nous, « Marie a choisi la bonne part, écoutez. » Cette part ne lui sera jamais retirée. Donne-nous de bien t'écouter pour bien vivre. Amen.